Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos.
Prolongez le débat sur Studio Tamani.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenni Biro.
Halud Mouni.
Chenni Biri. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes vendredi 9 octobre 2015. Bienvenue à cette émission et merci de nous recevoir chez vous. Le Grand Dialogue réfléchit aujourd'hui sur trois thèmes avec les journalistes invités à cette émission. La mission donc des administrateurs à Kidal, première mission depuis mai 2014. Également, sujet de cette émission, la recrudescence du paludisme dans le pays, la suite du drame de Mina, lourd bilan pour le Mali, sans plus de 100 morts parmi les rangs des pèlerins maliens, donc à Mina le 24 septembre dernier. Alors, nos journalistes invités, Célia d'Almeida du journal du Mali.com, Amadou Diallo du journal L'Essor, et nous aurons très probablement Ibrahim Ouattara de Prestige News. Merci à vous et merci pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, Mamadou Ouattara est à la technique.
Studio Tamani.
Des techniciens donc du gouvernement du Mali, accompagnés des membres de la CEMA, se sont rendus ce mardi à Kidal. Selon la délégation, l'objectif de cette mission est d'évaluer les besoins des populations de Kidal dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'électricité et de l'eau, afin donc de les appuyer dans les différents secteurs. Alors la santé donc, qui des questions de santé donc qui secouent beaucoup cette région de Kidal. Célia, quel sens peut-on donner à cette visite première du genre depuis le début de l'année?
C'est une très bonne nouvelle, je pense, hein, et pour les populations de Kidal et pour le Mali tout entier, parce que, comme vous l'avez dit, depuis 2014, l'État malien n'était plus présent et personne n'osait s'y rendre, en fait. Et donc, le fait que, en plus, ce soit une délégation d'administrateurs, mais aussi de la CMA qui se soit associée, ça montre, je pense, que les lignes bougent et qu'il y a une volonté manifeste d'aller vers un retour de l'État du Mali dans cette région-là. Et tous ces corollaires, c'est-à-dire une école, une santé, etc. On avait promis la rentrée aux enfants de Kidal. Donc je pense que les choses sont en bonne voie pour que c'est ce qui était à l'état de souhait passe à l'état de réalité et que la vie, la vraie vie, puisse reprendre à Kidal.
Merci beaucoup, Célia. Alors, Amadou Diallo, du journal L'Essor, quel sens donnez-vous à cette visite, à cette mission du gouvernement du Mali à Kidal?
Merci, Cécile B. Excusez-moi. Ça, c'est une très bonne chose. Mais ce matin, quand j'écoutais RFI, alors, il y a un leader du mouvement qui disait que...
De la
CEMA. Ma terminologie, ce n'est pas la CEMA. Ma terminologie, c'est la CEMAC. La coordination des mouvements armés de Kidal. C'est ça, ma terminologie. Parce que moi, je ne crois pas à cette histoire. Bon, pour dire que ce matin, quand j'écoutais RFI, un leader parlait que la population n'était pas 100% d'accord avec cette idée, cette démarche du gouvernement. Bon, ça m'a un peu choqué. Parce que, vu l'état de délabrement qu'ils ont provoqué à Kidal et dans les villes qui vont être concernées par la visite de la délégation, et la réaction, c'est vraiment... C'est comme si ces gens-là ne veulent pas vraiment la paix pour leurs propres frères et leurs propres sœurs. Quelle que soit la situation, ça ne devait pas sortir de leur bouche. Ça, c'est mon point de vue. Je crois qu'aujourd'hui, les gens sont réellement dans les besoins. Depuis combien de jours, il n'y a plus de courant à Kidal. L'eau, c'est un problème. Or, Kidal, à Kidal, depuis, c'était les 4B, hein, comme a été aimé à dire, les bidons pour le problème d'eau. Donc, quand il y a des solutions à apporter, on doit se presser pour accompagner cette initiative. Parce que, surtout que le gouvernement du Mali est accompagné dans cette mission par des partenaires. qui ont un moment, quelle que soit la situation, mais qui ont un moment qui les ont soutenus dans leur aventure. Mais aujourd'hui, ces partenaires ont compris qu'au-delà de ces leaders qui sont plutôt attachés à leur propre ego, hein, il y a une population qui souffre. Et c'est à cette population que cette aide est adressée. À mon avis, ils devaient accompagner ça avec des applaudissements et faire taire tous les petits rancœurs, disons, qu'ils ont et les ressentiments qu'ils ont par rapport à la situation.
D'accord. Alors, merci beaucoup, Diallo. Alors, Célia, les deux priorités, il faut savoir, de cette mission, c'est la réouverture des classes et le règlement peut-être de la question sanitaire. Mais d'abord, le défi de la réouverture des classes, comment est-ce que vous le voyez?
Le grand frère l'a dit tout à l'heure, hein, je pense que c'est très clair que la population de Kidal est en attente. Quels que soient les discours qu'on fait sur la scène politique, il y a la réalité du terrain. Et la réalité, c'est que les gens à Kidal sont dans le dénuement total. Quand il y a des manifestations, on le voit bien, il y a une dizaine de personnes qui sortent. Et généralement, ce sont les proches de un tel ou de un tel. Mais la vraie population, la grande majorité de la population reste terrée chez elle parce que elle est brimée d'abord dans sa liberté, dans son droit tout simplement de s'exprimer, de dire non, je ne suis pas d'accord avec cette situation. Donc je pense que le fait que l'État malien montre que non, nous ne nous avons pas abandonné, parce que c'est le langage qui leur est tenu en fait. Bamako n'a aucun souci de vous. La preuve, ils ne viennent pas. Ils ne veulent pas que la situation se règle, etc. Donc le fait que cette démarche-là a été faite, je pense, va redonner un peu de courage aux populations de Kidal, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que tout le monde n'est pas dans la ville de Kidal. Il y a beaucoup de hameaux autour qui, justement pour l'école, les enfants convergent vers la ville de Kidal pour venir étudier. Donc je pense que c'est une très bonne nouvelle, cette question de réouverture des classes, parce que ça va permettre de poser les familles, ça va permettre aux enfants de ne plus se retrouver dans les rues, de ne plus être vulnérables pour ces gens-là qui les utilisent comme enfants soldats, parce que c'est une réalité aussi du terrain. Et je pense que ces enfants-là, je crois que le ministère de l'Éducation a décidé que la première leçon de la rentrée serait sur la paix. Et je pense que ça va être toute une symbolique de cette première leçon d'ouverture des classes à Kidal, qui soit sur la paix. Et ça va peut-être renouveler les esprits, de sorte que les uns et les autres, et on le dit souvent, les enfants éduquent les parents, les uns et les autres puissent aller vers cette paix-là que je suis certaine que la population de Kidal demande encore plus que nous qui sommes ici à Bamako.
Merci Célia. Alors Diallo, il y a quelques années déjà que les portes des écoles étaient fermées à Kidal. Aujourd'hui, il y a un vent d'espoir qui souffle donc sur la région par rapport à la réouverture des écoles. Comment voyez-vous ce défi? Comment voyez-vous la concrétisation de cette question?
Oui, comme je l'ai dit tantôt, ça dit que il appartient à la communauté internationale, hein, une partie qui soutient ces aventuriers, de comprendre que la population de Kidal, je ne parle pas de la ville de Kidal, mais de toute la région de Kidal, est vraiment forte. Leur demande est forte. Moi, j'ai vu des images. C'était lors de la tournée du chef d'état-major des armées, hein, à Tessalit, à Guélog, à Bébara, à Kidal, qui n'a certes pas été diffusée sur la télévision nationale, mais cette image est parlante. Vu l'engouement de la population à accueillir cette délégation militaire, ça dit tout, ça en dit long sur l'attente de la population. C'est une population, en réalité, qui a été prise en otage par un groupuscule d'individus qui visent simplement leur intérêt individuel et au nom de la population, d'une population à qui on ne donne pas la parole. On refuse la parole à la population de Kidal. La preuve, chaque fois, on sait lire les images, hein. Les images que TV5 ou bien France 24 souvent diffusent, on sent qu'on fait une... Et un montage de l'image tel que ça se concentre et montrer qu'il y a, alors que en réalité, quand on éclate l'image, on sent que ces gens-là ne sont pas soutenus par la majorité de la population. Ça veut dire que la population attend de pied ferme l'ouverture de l'école. Et c'est une très bonne chose que vraiment, le gouvernement s'engage à fond parce que il y va de sa responsabilité.
D'accord. Merci Diallo. Alors, Célia.
Oui, je voudrais juste rebondir peut-être sur l'aspect organisationnel de cette histoire. Je pense que les dispositions ont été prises depuis plusieurs mois. Et c'est la recrudescence de la violence au niveau d'Anéfis, Eminaka, etc., qui avait un peu freiné les choses. Donc, côté disposition logistique, je pense qu'ils sont plus ou moins prêts pour le retour de l'école. Il y a des enseignants à Kidal, des gens qui ne sont pas partis. Il y a des autochtones de Kidal qui ont la capacité de prendre en charge les classes. Maintenant, comme le grand frère l'a dit tout à l'heure, Amadou, il y a cet appui de la communauté internationale. Le Mali est un État qui se relève lentement, et on sait que l'école, ça coûte de l'argent. Donc si on veut vraiment soutenir le Mali aussi pour le retour vers la paix, c'est soutenir son école, et particulièrement son école dans la région de Kidal, pour que les gens puissent avoir les moyens de tout simplement payer les enseignants, s'il n'y en a pas suffisamment, qu'on puisse en délocaliser et qu'on donne envie aux enseignants de la région de Mopti, de la région de Gao, d'aller vers Kidal avec des petites primes, etc., de sorte que les gens puissent aller réellement et que cette ouverture de classe ne soit pas juste un effet d'annonce. On va les voir à la télé après, les classes vont fermer.
D'accord. Alors justement, sur cette question également de santé, Kidal fait face aujourd'hui à quelques épidémies. Comment est-ce que vous voyez l'action de la MINUSMA conjuguée à celle du gouvernement du Mali par rapport à cette question de santé à Kidal?
Bon, je pense que dans un État justement en guerre, parce que quoi qu'on dise, c'est ça la vérité, hein. Dans un État en guerre, tout est prioritaire. D'accord, tout est prioritaire. On vient de parler de la question de l'école, la question de la sécurité est là, la question sanitaire est là. Et la MINUSMA a un mandat effectivement d'appuyer les autorités maliennes dans leurs actions pour garantir la sécurité des populations. Et les questions de santé peuvent déboucher sur des questions de sécurité. D'accord, donc la MINUSMA qui se tient aux côtés de l'État malien, je pense que ça se comprend, ça se justifie. Maintenant, encore une fois, ne laissons pas notre destinée entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc c'est à l'État malien de prendre ses responsabilités et de se dire, bon voilà, dans la partie nord de mon pays, qui en plus n'est pas complètement sous ma coupe, voilà, il y a une situation de crise sanitaire. Et que ce soit les autres qui viennent en appui, pas l'État malien qui vient appuyer les autres qui sont en train de travailler sur le terrain, mais que ce soit les autres qui viennent en appui au gouvernement du Mali pour que cette question sanitaire soit prise en charge. Parce que ça peut être encore un argument pour les ennemis du Mali, pour dire voilà la situation qui se dégrade et puis on ne s'occupe pas de vous. Donc c'est une situation à prendre rapidement en charge et sous la tutelle du gouvernement du Mali.
D'accord. Alors nous allons poursuivre cette question de santé avec la recrudescence du paludisme partout au Mali, juste après quelques secondes de pause.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Studio Tamani, c'est notre site web, c'est notre page Facebook et notre compte Twitter pour vos réactions, qui sont d'ailleurs les bienvenues par rapport à cette question que nous allons donc entamer, la question de la santé, le paludisme qui est en nette augmentation au Mali, plus de 200 000 cas supplémentaires cette année par rapport à l'année dernière. Alors, comment est-ce qu'on peut évaluer cette recrudescence du paludisme, Diallo, Amadou Diallo?
Bon, comme le gouvernement même, dans sa déclaration, a dit qu'il n'y a pas de feu en la demeure, alors on reste derrière cet effet d'optimisme. Parce que
c'est quand même 200 000 cas, hein,
oui,
plus de 200 000 cas.
Mais ils ont, dans le communiqué, qui nous ont fait parvenir, il n'y a pas de feu en la demeure. Donc je suppose que la situation est sous maîtrise.
D'accord. Voilà. Alors, Ibrahim Ouattara de Prestige News a fait son entrée dans ce studio durant la pause. Alors, Ibrahim, comment est-ce que vous évaluez ce communiqué du gouvernement et cet état de fait de plus de 200 000 cas supplémentaires de palus cette année?
Merci. Je remercie également les auditeurs tous les auditeurs qui nous écoutent.
Bon, de Studio Tamani.
De Studio Tamani, voilà. Bien sûr. Je partage bien l'avis du grand frère. Vous savez, bon, le gouvernement, c'est son devoir. C'est son devoir d'apaiser un peu les tensions pour ne pas que les gens, je vais dire tout de suite, pour ne
pas
affoler
la
population.
Il y a l'OMS qui dit que le seuil d'épidémie n'est pas atteint.
Oui, écoutez, moi je parle de mon gouvernement en fait, voyez-vous. Pour, en ce qui concerne l'OMS, on viendra là-dessus. Voyez-vous, c'est le devoir du gouvernement aujourd'hui de faire comprendre à la population de ne pas s'alarmer en fait. Et cette situation de paludisme, ça arrive, c'est pas la première fois dans le monde. Voyez-vous, juste pour couper court, dire il faut qu'on arrive à pallier à cette épidémie très rapidement. Et je suis sûr et certain que le gouvernement malien trouvera les moyens pour pallier à cette épidémie.
Alors, pour la ville de Bamako, peut-être pour entamer avec vous, Célia, c'est plus de 26 000 cas détectés à Bamako. Comment voyez-vous, de façon générale, l'augmentation du palu?
L'augmentation du palu, parce que nous ne voulons pas changer nos habitudes, tout simplement. Parce que nous allons construire nos maisons dans des zones marécageuses, alors qu'on ne doit pas y construire de maisons, tout simplement. Parce que nous continuons...
Faute d'avoir mieux.
Oui, on a toujours mieux quand on veut. On a toujours mieux quand on veut. C'est-à-dire que quand l'État propose des solutions, mais l'État c'est qui? L'État c'est vous, l'État c'est moi. D'accord? L'État c'est Amadou, c'est Ouattara, c'est nous tous, l'État. Et donc, quand il y a une situation de crise, qui doit y faire face? Eh bien, c'est nous tous. D'accord? L'État ne va pas aller chercher un enfant malade chez son parent pour l'amener à l'hôpital. Je pense que la question, bon, la raison avancée, c'est la pluviométrie très abondante qui a favorisé la prolifération des moustiques. Mais s'il n'y a pas d'eau stagnante, il pleut beaucoup aux États-Unis aussi, d'accord? Il pleut beaucoup, je sais pas moi, au Burkina Faso.
Où on voit difficilement la terre quand on se promène dans les rues.
Donc.
Également.
Donc. Oh. Oui, peut-être. Il y a des zones où on voit aussi beaucoup la terre. Hein. C'est pas, il ne faut pas se cantonner à ce qu'on voit dans les films. Hein. Il y a des zones rurales aux États-Unis hein, où vous faites 5 km à la ronde, vous ne voyez pas un immeuble à 3 étages. Hein. Ça existe. Donc, je pense que c'est à nous, en fait, pour sortir un peu du débat. Est-ce que l'État va bien gérer ce qu'État... L'État, il a le devoir de gérer, de toutes les façons. Il a le devoir de gérer. C'est son travail. C'est pour ça que nous payons nos impôts. Et c'est son devoir de gérer les cas. Les gens arrivent à l'hôpital, on doit les soigner. On doit tout faire en sorte pour que les enfants ne meurent pas de palu. Pour que les cas n'arrivent pas en neuropalu et qu'on se retrouve avec des fous remplis nos rues. Voilà, bon, ça c'est le travail de l'État. Mais à nous tous, notre travail, c'est de faire en sorte que les conditions qui créent le palu soient le plus minimisées possible. Et ça, c'est faisable. C'est juste une question de volonté, que chacun dans sa famille se dise, la rigole devant chez moi, le caniveau ne doit pas rester ouvert. Si tu n'as pas les moyens de faire du ciment, vous mettez des planches. Les jeunes qui s'asseyent là-bas pour boire le thé, toute la soirée sont piqués par les moustiques et pourtant ils sont assis là-bas. Les moustiques sont en train de les piquer. Ils commencent à avoir mal à la tête, ils sont assis à la maison, bon, les farimanganés. Mais, ils sont assis là, ils attendent que ça s'aggrave avant d'aller. Vous voyez, c'est une question de mentalité qu'il faut que nous fassions évoluer. Il est grand temps. Le Mali n'est pas un pays pauvre. Le Mali est rempli de gens intelligents, de gens battants, de gens qui veulent avancer. Il nous suffit juste cette petite étincelle-là que nous nous disions, ah tiens ça, ce n'est pas bien pour moi. Et au lieu d'attendre que ce soit l'État, parce que l'État, excusez-moi, c'est pas le président Ibeka, l'État c'est nous.
Les citoyens.
Que nous nous prenions en main pour éviter les raisons. Et puis, l'État pourra gérer, même si c'est 1 million de cas, on pourra les gérer.
Inch'Allah, ça Alors, pour aller dans le même sens, ce communiqué donc du gouvernement qui a annoncé l'augmentation du palu au Mali a également énuméré un certain nombre de mesures portant donc la réduction et la lutte contre le paludisme, notamment l'utilisation et la distribution de plus de 6 millions de moustiquaires dans différentes régions donc du pays. Alors, Célia parlait tout à l'heure de volonté et de changement d'attitude, Ibrahim Ouattara.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, je suis tout à fait d'accord avec elle. Le changement de comportement doit être de mise, mon frère. Vous voyez, nous sommes dans un environnement où nous essayons toujours de rejeter certaines responsabilités à nos autorités. On ne se met même pas en cause pourquoi ceci est arrivé. Même à la maison, quand quelqu'un est malade, excusez-moi du thème tout de suite, il rejette la responsabilité à l'autorité. Voyez-vous, allez-y un peu dans les quartiers, dans les bas quartiers surtout. Mais je vous dis que à partir de 17h30, 18h, ben c'est le moustique partout.
À Badlabourou peut-être, non?
Non, je n'ai pas dit à Badlabourou.
Même à la cité du Niger, le fleuve est tout sale
même
là-bas.
À la CI 2000, je vous dis. Même à la CI 2000.
Surtout pas à Bourouba.
Justement. Donc, pour vous dire une fois de plus que il faut que... C'est-à-dire, nous... qui sommes les citoyens, nous qui sommes la population. il faudrait que nous prenions nos responsabilités. Essayer d'assainir notre environnement là où on vit, ça ne coûte rien du tout d'assainir sa maison ou alors son local. Voyez-vous, je vais vous donner un exemple. À Bankoni, il y a des personnes qui jusque-là, au 21e siècle ici, quand ils prennent leur douche, l'eau coule dans les ruelles.
Et ça, quand c'est pas qu'à Bankoni, c'est dans plusieurs quartiers.
Je donne un exemple parmi tant d'autres, en fait, que je connais. Parce que Bankoni, c'est là où se trouve ma grande famille.
Peut-être qu'il habite là-bas, il ne veut pas qu'on...
Non, je sais de quoi je parle. Voyez-vous ? Donc, aujourd'hui, il faudrait que le Malien se pose cette question. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter beaucoup de choses ? Qu'est-ce que je peux faire pour l'avancement, pour le développement de ce pays ? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour soutenir nos autorités qui se battent au quotidien pour notre bien-être ?
Voilà. Merci beaucoup Ibrahim Ouattara de Prestige News, j'y arrive. Alors Amadou Diallo du journal de l'Essor, j'allais vous attribuer donc le titre de journaliste à journaldumali.com. Alors,
pourquoi pas.
Alors revenons un peu sur cette distribution de moustiquaires imprégnés, plus de 6 millions de moustiquaires imprégnés distribués cette année, mais malgré tout une augmentation significative.
Mais je souscris évidemment à mes prédécesseurs. C'est-à-dire que c'est juste une question de comportement. Hein. Sinon, moustiquaire, ça a été vraiment distribué.
Même moi, je l'ai reçu.
Voilà. Moi, je l'ai reçu. J'ai même triché un peu avec, avec le distributeur pour ajouter.
Vous dénoncez en direct.
Voilà. Donc, c'est pour dire que.
C'est de bonne guerre.
C'est pour dire que. Vraiment. Ce que les citoyens doivent comprendre, l'État crée les conditions. Mais maintenant, profiter, ça c'est le comportement individuel. Moi, il y a une rue à Banankabougou, notamment la rue.
On va toucher tous les quartiers de Banankabougou.
La rue qui fait face à Blomba. Il y a de cela 5 ans, cette rue était impraticable, même en saison sèche. Mais les habitants de la rue se sont organisés, ils ont cotisé. Chaque famille a cotisé, a mis 10 000 francs dans la cagnotte. Et puis, il y a eu une bonne volonté qui est venue compléter. Du bout en bout, ils ont mis des gravats dans la rue. Ensuite, les jeunes se sont organisés, ils ont creusé un caniveau. Donc, voyez-vous, c'est juste une question de volonté. Il faut que les gens comprennent que d'abord, la première responsabilité incombe à nous-mêmes. C'est notre portefeuille qui en dépend. Hein.
Si chacun balayait
voilà,
devant sa porte.
Si, comme la rue de Madame Prop, qui est restée dans le vocabulaire du commun des Maliens, en tout cas de Bamako, c'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que d'abord, il faut agir pour soi-même et par soi-même. Et c'est là la clé de la réussite.
D'accord, voilà. C'est Léa.
Et puis la moustiquaire, ce n'est pas forcément la solution, parce que mes parents, Sidi Bé, ils se couvrent avec la moustiquaire. Or, il faudra aussi leur montrer comment ça s'utilise.
Ça, c'est une attaque frontale. Ok, justement, sur cette question de moustiquaire, les hommes, c'est les hommes ou c'est les femmes qui sont le plus réfractaires à l'utilisation de la moustiquaire, Célia ?
Oh, je pense que c'est pas vraiment une question de genre, hein. C'est plus une question, c'est dans la tête en fait. Beaucoup de gens aujourd'hui vous disent, ouais, je dors pas sous la moustiquaire parce que je me sens oppressée. Bon, c'est dans la tête. Il faut qu'on mette dans la balance le rapport bénéfice et inconvénient. Voilà. Si vous êtes un tout petit peu gêné, mais ça permet de vous d'économiser.
Si le lit est assez large, il n'y a pas question de toucher.
Même si c'est sur la natte, hein. Et puis, il faut savoir l'attacher. C'est pour ça que je dis, il faut apprendre aux gens à utiliser.
Tout est mal. Hein?
Tout n'est pas de donner la moustiquaire. Il faut savoir utiliser la moustiquaire. Je le dis en rigolant, mais je vous assure que moi, j'ai vu plusieurs fois dans les rues de Bamako, les gens qui se couvrent comme une couverture avec la moustiquaire. Ils pensent qu'ils sont protégés. Vous voyez, quand ils auront le palu, ils seront tout étonnés. Donc, il faut aussi une question d'éducation autour pour que les gens comprennent. La maman qui vient prendre la moustiquaire au centre de santé au moment de sa consultation prénatale ou bien quand elle amène son bébé, qu'elle comprenne qu'il vaut mieux pour elle de se coucher sous la moustiquaire que de la revendre à 2000 francs. C'est des situations comme ça que nous vivons. Et je pense que si on comptabilise le nombre de moustiquaires qu'on a distribués au Mali depuis une dizaine d'années, chaque Malien doit en avoir au moins 3. Si on comptabilise. Donc, c'est pas le manque de moustiquaires, c'est l'utilisation de la moustiquaire.
D'autant plus
et ce n'est pas les hommes, c'est pas les femmes, c'est peut-être les mamans, peut-être travailler plus sur les mamans pour qu'elles obligent surtout les enfants, les petits-enfants à dormir parce qu'ils sont plus vulnérables et les personnes âgées à dormir sous la moustiquaire. Et puis, au fur et à mesure, dans la tête, voilà, ça va évoluer.
Ancrer ça en eux. Merci beaucoup, Célia. Alors, Amadou Diallo, concernant le traitement du palu, pensez-vous que cela est accessible aujourd'hui aux Maliens moyens?
Bon,
les thérapies.
Il ne faut pas oublier que le gouvernement a pris l'initiative sur lui
de rendre le traitement gratuit pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans.
Et ça coûte une fortune. Hein. Bon, au-delà de ça aussi, il y a aussi le traitement disponible au niveau des CESCOM, des centres de santé communautaire. Simplement, je ne vais pas faire la mauvaise campagne pour les cliniques. Mais d'abord, la communauté utilise très peu les moyens que l'État met à disposition. Moi, je fais confiance entièrement au CESCOM. Ma fille, présentement, souffre un peu de palu. Première destination, le CESCOM 2008 logements. Je commence toujours
par le centre de référence.
Je commence toujours par le centre de référence. Ensuite, je fréquente rarement les cliniques. Pas parce qu'elles ne sont pas compétentes. Et pas parce que par manque de moyens. Mais je fais confiance aux structures publiques parce que il y a les spécialistes qui sont là, qui travaillent. Qui ont été formés pour ça et qui s'adonnent à fond.
C'est aussi une pyramide, hein, sanitaire, c'est une pyramide. Donc, c'est d'abord
les
ASACO, ensuite les centres de santé de référence, arriver aux hôpitaux.
Voilà. Il faut que les gens utilisent les moyens qu'on met à leur disposition, qu'ils fassent confiance. Ce sont nos parents, ils savent travailler. Et quand ils font des erreurs, il faut leur dire. Moi, je n'hésite pas à crier sur le médecin quand il fait mal le boulot, mais je lui fais confiance a priori. Mais simplement, les gens utilisent moins, et puis tout le monde est médecin au Mali. Hein, l'automédecine s'est vraiment développée. Tout le monde est médecin. Quand quelqu'un souffre un peu, il dit, il faut aller, quelqu'un va te dire à côté, bon, il faut aller acheter le sérum, il faut faire ceci, il faut faire. Je dis, non, il faut éviter ça.
D'accord.
Il y a des gens qui sont formés, qui ont été formés sur nos moyens, parce que ce sont nos impôts qui les ont formés, et il faut les faire travailler, c'est tout.
D'accord. Voilà. Alors, Ibrahim Ouattara, question thérapie, accessibilité, du coup, aux Maliens moyens.
Oui, contrairement à la sous-région, je dis bravo au Mali, parce que je connais très bien la sous-région, j'ai beaucoup voyagé, je suis même tombé malade dans certains pays. Et encore une fois, je profite pour dire merci à nos autorités pour tout ce qu'ils font pour les malades, en tout cas de cette épidémie qu'on appelle le palu. Voyez-vous, comme le grand frère le dit...
Alors, on dit d'éviter le mot épidémie.
Bon,
pour ne pas paniquer.
D'accord, je veux dire le palu.
Le palu, voilà.
Le paludisme. Comme mon confrère le disait tout à l'heure, mon aîné, il faudrait que le Malien, quand il a un petit souci de santé, qu'il parte directement voir les structures sanitaires. C'est très important. C'est très important. On sait que aujourd'hui, quand vous êtes un peu souffrant, il y a quelqu'un qui peut venir pour vous dire non tout de suite. Allons-y à la pharmacie ou bien je connais quelqu'un qui peut te soigner immédiatement. Non, il y a des gens qui sont morts.
Professionnels.
Il y a des gens qui sont morts. C'est-à-dire de façon banale. Ils sont morts de façon banale. Voyez-vous. Et le paludisme est une maladie qui tue. Ça, il faut le dire. C'est une maladie qui tue. Elle ravage également. Enfin, il ravage. Donc, si quelqu'un présente des symptômes du paludisme, qu'il parte à l'hôpital tout simplement. Surtout les structures publiques, comme le grand frère vient de le dire. Les cliniques, je le suis. Les cliniques, quand vous partez, d'abord la première des choses, c'est de vous prélever le sang. Et ça coûte une fortune, les analyses.
Mais il faut d'abord qu'on sache ce que vous avez.
On ne prélève même pas le sang, on vous fait l'ordonnance d'abord.
Oh, d'accord, voilà.
Avec une douzaine de produits.
Justement.
Et puis après on dit de faire les analyses.
Merci ma consoeur.
Pardon, les médecins.
Voyez-vous, comment les cliniques vont vivre si vous êtes là à les attaquer?
Non, nous ne sommes pas en train de les attaquer, mais nous voulons un changement de comportement de la part de ces personnes. Voyez-vous, sinon tout le monde peut se soigner à la clinique si les gens mettaient quand même un petit peu de sérieux. Voyez-vous, donc... je pense que quand quelqu'un est malade, pour me résumer, il faudrait que la personne s'adresse directement au
centre de santé.
Voilà.
Donc, sanitaire. Alors, Célia, je vous passe la parole juste après la pause.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Studio Tamani, c'est aussi notre site web www.studiotamani en un seul mot.org. Alors, nous allons boucler le sujet du paludisme avec vous, Célia, qui souhaitait réagir avant la pause. Alors, je vous donne la parole.
Oui, par rapport à ce que mon confrère Ouattara était en train de dire, c'est que on s'est transformé en médecin ici aujourd'hui pour dire aussi qu'il y a le problème de l'automédication qui est vraiment un problème très sérieux parce que les gens ne prennent pas la peine de chercher la source de quoi ils souffrent. Et puis nous tous, on est tous comme ça, quand tu prends le médicament, quand on se sent un tout petit peu mieux, on arrête le traitement. Voilà. Et donc je pense qu'il y a un effort à faire et ça effectivement, comme vous parliez des mamans tout à l'heure, il y a un effort particulier du côté des mamans pour continuer leur éducation, leur sensibilisation pour qu'elles sachent que quand mon enfant a la fièvre et que sa température dépasse tel seuil, il faut que je l'amène à l'hôpital. Les enfants tombent tout le temps malades, hein, mais il faut qu'on arrête de banaliser la maladie. Il y a des gosses qui sont morts parce que leurs parents ont dit non, c'est la poussée dentaire, alors que c'était un palud chronique que l'enfant était en train de faire. Donc avoir ce réflexe-là, que ce soit à l'hôpital public, que ce soit en clinique, je ne veux pas forcément jeter la pierre, mais qu'on ait ce réflexe-là, quand quelque chose de pas normal se passe, de ne pas penser à l'argent, de penser à la santé de l'enfant et à sa survie, ou du malade tout simplement. On est trop dans « ça coûte cher, ça coûte cher », et après on utilise cet argent-là pour faire les funérailles, ce qui est une aberration totale.
Alors justement, toujours sur cette question du palud, il y a cette particularité des deux régions, en plus de Bamako, qui ont donc été fortement touchées, c'est la région de Tombouctou et la région de Gao, et la région de Gao ou Tombouctou, Gao, hein? Non, c'est Gao. Gao et Kidal, qui en plus de Bamako, sont donc fortement touchés par cette augmentation du paludisme donc au Mali. Mais je voudrais revenir sur cette particularité de Mopti. Mopti qui se trouve entre les eaux a échappé à cette augmentation, Célia. Pourquoi?
Ah, peut-être que les bozos de Mopti sont très forts pour attraper les moustiques.
Bon, mais...
Moi, je ne sais pas trop, je pense
peut-être à force d'utiliser
les moustiquaires,
sensibilisation également.
Et puis les eaux qui sont là-bas ne sont pas des eaux simples, hein. C'est les eaux de la riziculture, il y a beaucoup de produits dedans, donc je pense pas que les moustiques prolifèrent comme ça proliférerait ailleurs.
Donc c'est une forme de moustiquaire imprégnée.
Ouais, hein. Voilà, en quelque sorte, quoique bon, plus dangereuse. Mais je pense aussi qu'à Gao, il a énormément plu cette année. Il y a eu beaucoup de pluie et Gao est une ville connue.
Il y a eu également des inondations.
Voilà, Gao est une ville connue pour son problème d'évacuation d'eau. Donc les mares se forment très très rapidement et si les pluies s'enchaînent, eh bien les mares deviennent des petits fleuves et puis ça stagne et puis le paludisme. Et quand c'est une population qui n'est pas préparée à ça, vous voyez les Bella, ils dorment tous sous des tentes. C'est la moustiquaire,
attention,
c'est pas leur souci.
Attention, c'est attention.
Mais c'est la vérité.
Aïwa.
J'ai été à Gao à plusieurs reprises, je ne fais que dire ce que...
Ici.
Mais c'est la vérité. Les Bélais et les Peuls, ils dorment sous les tentes. C'est la vérité. N'est-ce pas?
Oui, c'est ça, c'est voilà. ça. C'est-à-dire que la particularité cette année, c'est que Mopti est déjà habitué à ça, hein, parce que Mopti vit dans l'eau pratiquement. Donc la population est déjà...
prête.
A un réflexe. A développé un réflexe d'autodéfense. Mais par contre... Les villes comme Gao, Tombouctou, c'est des zones qui n'est pas tellement connues de palud, les zones de palud. Et donc, la population
se
n'est
font
pas...
Il faut surprendre alors.
Voilà, la population n'a pas de réflexe, n'a pas développé le réflexe d'autodéfense, ce qui fait qu'elle a été prise à dépourvu. Donc, je crois que c'est juste ça.
Alors, c'est contrairement à ces régions, Bamako ne peut quand même pas être... surpris
oui,
de
même
cela.
Bon, par exemple, il est, même dans les causeries, les emboutades, par exemple, les gens disent à Nyono, même à 16h, on se fait couvrir de moustiques. Donc, vous voyez, une population comme ça est déjà préparée. Hein? Mon petit, c'est un peu le cas. C'est comme en Europe, hein, quand on est atteint de palud, il n'y a pas de solution. Voilà.
D'accord. Alors, nous allons donc mettre fin à cette question du palud et entamer un sujet moins gai, le bilan donc des pèlerins maliens suite donc à ce drame de Mina du 24 septembre dernier, le gouvernement qui a annoncé 70 morts et plus de 200 disparus. Aujourd'hui, ce bilan est revu à la hausse par les agences de voyage qui ont donc créé créé un comité de crise qui estime à ce jour à 119 morts le nombre de pèlerins donc de cette tragédie de Mena à la Mecque le 24 septembre dernier. Alors Célia, comment est-ce qu'on peut être à ce stade-là entre deux informations, d'abord celle du gouvernement et ensuite ces informations qui tombent, 119 morts et plus de 200 disparus.
Je ne sais pas.
Quel état, dans quel état se trouvent les familles?
Je n'ose imaginer. Et je voudrais dire vraiment que vous me permettiez de leur exprimer toute ma compassion parce que je ne peux pas imaginer une famille qui, aujourd'hui, deux semaines après ce drame, ne sache pas si son parent est vivant ou mort. C'est-à-dire que si au moins on dit, bon, ils sont morts, on dit, bon, c'est les martyrs de Mena, les gens vont faire leur deuil. Au jour d'aujourd'hui, on maintient l'espoir. On est en train de dire aux gens, oh, bah, peut-être qu'ils sont toujours blessés, oh, bah, peut-être qu'ils sont dans les hôpitaux, oh, bah, on sait pas. On va chercher, on continue de chercher. Et donc, je vous assure qu'il y a des familles à qui on a dit ça, mais qui ont fait appeler l'imam et qui ont fait réciter le Coran et que pour eux, c'est fini. Vous voyez? Je me dis, c'est un drame humain, mais extraordinaire. Et la douleur de ces familles, d'ailleurs, il y a un comité qui s'est constitué, je pense qu'ils étaient sur votre plateau aujourd'hui, des gens qui se disent, non, on va pas s'asseoir et attendre. Parce que c'est ce qu'on leur demande. Asseyez-vous, attendez, nous on va chercher et puis on viendra vous dire. Et c'est la pire des attentes, c'est une attente mais inhumaine. Et j'espère vraiment que tout est fait pour que cette attente-là soit la plus courte possible. Elle a déjà trop duré. Pour que les familles soient fixées, il y a des photos qui circulent partout. Hein, devant les hôpitaux, il y a des photos des gens qui sont dans les hôpitaux. Les familles ont les photos de leurs parents. Je ne vois pas ce qui empêche qu'on prenne ces photos, qu'on prenne un avion, qu'on arrive là-bas et qu'on passe hôpital par hôpital et qu'on sache qui est vivant et qui est mort. C'est un travail à faire. D'autres pays l'ont fait et l'ont terminé. Et le Mali a les moyens de le faire, il faut qu'on le fasse.
Alors, faut-il déjà entamer le deuil pour les familles, vu que ces corps ne seront pas rapatriés donc dans les pays comme le Mali?
Pourquoi?
C'est ce que les uns et les autres ont décidé. Sauf demande expresse des familles, ces corps seront donc enterrés sur place, donc à Mena. Alors, le Haut Conseil islamique du Mali a voulu rassurer les familles en disant qu'il ne faut pas forcément placer les disparus parmi les morts. Il faut scruter l'horizon donc des hôpitaux et que peut-être ces pèlerins sont en état donc de choc ou ne peuvent tout simplement pas s'exprimer pour dire d'où ils sont. Alors, dans cette question assez préoccupante, comment est-ce que on peut soulager les familles, Amadou Diallo?
Bon, soulager, c'est très difficile, hein. C'est des pertes en vies humaines. Simplement, bon, mais moi, je crois que le consulat d'Arabie Saoudite au Mali a une part de responsabilité. Dans ce genre de situation, il devait avoir un bureau d'information.
Permanent.
Et un bureau, vraiment un bureau d'accueil.
Alors, si je ne m'abuse, cela est déjà en place. Hein. Les familles peuvent contacter le bureau sur place pour avoir des informations
en Arabie Saoudite. Qui a combien de personnes ont les moyens d'appeler l'Arabie Saoudite tous les jours?
L'Arabie Saoudite est trop loin pour pas mal de gens. Mais
des initiatives locales.
Oui, mais existent, voilà, hein. Ça dit que normalement, dans ces genres de situations, il devait y avoir un bureau d'accueil au consulat qui devait orienter les gens, à mon avis. C'est comme ça, un État organisé. Mais jusque-là, l'ambassade ici est muette, totalement muette par rapport à la situation. C'est très, très regrettable. Et c'est un mépris impardonnable pour nous, les Maliens, en tout cas pour moi. Parce que les gens sont morts chez eux par faute d'organisation. Alors, qu'ils s'assument et qu'ils donnent aux gens le minimum d'informations pour les soulager. Ne serait-ce que parce que l'information, dans ce genre de situation, l'information est aussi une thérapie. Ça permet aux gens
de régler beaucoup de choses,
dans les explications, il a été dit que certains corps ont été vraiment totalement décomposés, qui sont même inidentifiés et qui ne peuvent pas être identifiés. Ça veut dire que Parmi les disparus, c'est des gens qui n'ont pas été identifiés.
Il y a eu des corps calcinés également.
Des corps complètement déchiquetés par les pieds. Vous savez, donc, pour tout ça, là, il fallait y avoir un dispositif d'accueil au niveau de l'ambassade et du consulat.
Quand vous dites le consulat à Bamako?
Voilà, mais... à Bamako. C'est le premier interlocuteur
des familles.
Maintenant, par rapport aux chiffres, moi, je crois que la semaine dernière, on était là, on a parlé des chiffres. J'ai dit que c'est évolutif et le temps m'a donné raison. Je crois qu'il faut que les gens s'abstiennent à s'abriter derrière les chiffres. Les chiffres sont souvent des pièges. Ça peut nous jouer de sales tours. Donc, moi, je préfère que les gens se focalisent surtout sur la compassion. Vraiment qu'on ait de la compassion pour les gens qui ont donné leur vie. Bon, la religion.
Et l'espoir n'est pas totalement perdu. Certaines familles commencent déjà à retrouver leurs proches.
Voilà.
Donc, et parmi les disparus.
Voilà. Donc, on peut quand même. Ça dit que l'ambassade peut aider les gens à retrouver leurs parents.
D'accord.
Voilà.
Ibrahim Ouattara.
Bon, dans cette affaire, il faut dire que l'État a beaucoup traîné les pas. L'État a beaucoup traîné les pas. Moi, je n'ai vu aucun pays victime de cette tragédie où le gouvernement de ce pays a adressé ses condoléances au Royaume de l'Arabie Saoudite. Mais ici, ça a été le contraire. D'abord, c'est ce qui m'a écœuré. Mais je vous dis que quand j'ai entendu ce communiqué à la télé, j'ai dit, mais où on va? C'est la fin du monde ou quoi? Mais je ne peux pas comprendre que je suis victime d'une tragédie et de la part de quelqu'un qui a été négligente. Et c'est moi la victime qui vais me lever pour présenter mes condoléances à celui qui l'a provoqué. Écoutez, je ne lance pas la pierre. Moi, je pense que l'État doit prendre ses responsabilités. Ce communiqué-là doit être retiré. Le gouvernement doit revenir et puis retirer ce communiqué. Voyez-vous, le Sénégal qui a été victime. Le Sénégal n'a pas présenté ses condoléances à l'Arabie Saoudite. Récemment, il y a 4 jours, l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Sénégal et aller présenter ses condoléances au président Macky Sall. Voyez-vous, pareil au Niger. Le Niger qui est aujourd'hui un pays, peut-être qu'on peut dire qu'il est dans la même fourchette que le Mali, mais le Niger a mis depuis lors une cellule de crise à la veille même de cette tragédie. Et aujourd'hui, le Niger a rapatrié presque tous ses blessés, sauf ceux qui sont dans des cas critiques. Voyez-vous? Et il y a des hôpitaux qui les ont déjà pris en charge. Au Mali, on était là, on a écouté certains leaders religieux qui sont venus faire le One Man Show. C'est-à-dire pour apaiser le cœur, pour dire que non, c'est des martyrs. Non, ce ne sont pas des martyrs. Je vous dis que ce ne sont pas des martyrs. Aujourd'hui, il faudrait que l'État malien mette avec les agences de voyage privées, faudrait qu'il y ait une enquête. On doit mettre en place une enquête pour déterminer, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé cette négligence qui a coûté la mort à plus d'une centaine de personnes.
Alors justement, sur cette question d'enquête, le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est adressé à la nation et a demandé donc au peuple de faire son deuil et que la suite sera les enquêtes futures seront envisagées mais après le deuil. Le gouvernement qui a également observé 3 jours de deuil national et une grande prière la semaine dernière par rapport toujours à cette question du drame de Mina. Alors je ne peux malheureusement plus vous donner la parole car cette émission s'achève. Ibrahim Ouattara, c'est la fin. Nous étions sur 3 questions. Donc la recrudescence du paludisme, c'est ce drame de Mina qui à l'heure actuelle les agences de voyage, le comité créé donc au sein des agences de voyage estime le nombre de personnes disparues à plus de 200 personnes disparues et le nombre de morts à 119, contrairement à 70 personnes, le bilan officiel du gouvernement du Mali. Il était question également de cette mission du gouvernement à Kidal qui doit donc permettre la réouverture des classes et la mise en service de certains centres de santé. Alors nous étions avec 3 invités, Célia Dalmeida du journal du Mali.com, Amadou Diallo du journal L'Essor, quotidien L'Essor, Dior et Ibrahim Ouattara de Prestige News. Je suis Famoussa Sidibé. Mamadou Ouattara était à la technique. Célia hausse la tête, c'est bien lui. Petit Ndiara à la régie vidéo. Ousmane Diadié Touré a réalisé cette émission. Nous vous disons bonsoir et à très bientôt pour de nouveaux débats. Bonsoir.
Le grand dialogue.
Sigika Foba.
Edouani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigika Foba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.